Merci d'être là à tous. Bon lundi. C'est une alternance de soleil et de nuages qu'on a présentement. Environnement Canada nous a peut-être un peu menti, Pascal.
Pourquoi?
On nous a dit un maximum de 6 pour aujourd'hui. On est autour de 0 ou encore de moins 1 à certains endroits.
Ça monte pas vite, hein?
Avec le vent, ça ressemble à un genre de moins 10 comme température ressentie.
Ah, oh, un bon moins 15, je te dirais, ce matin. Pensez pas porter pas de manteau de printemps avant quand, Yannick?
Je sais
demain,
pas.
Demain, regarde combien il va faire au maximum si ça monte jusque-là.
Demain, c'est 16. 16 degrés demain.
C'est plus ce qu'elle veut.
Voilà, donc maximum de 16. Demain, ce sera plein soleil. Mercredi, ce sera de la pluie intermittente ou de la neige, maximum de 6. Jeudi, ensoleillé, maximum de 9. Et vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 13.
C'est au rouge sur Capitale en direction ouest, à la hauteur de Robert Bourassa. Il y a des travaux dans le secteur. Je vous rappelle qu'il y a les petits ponts là, au-dessus de la rivière Saint-Charles qui sont en train d'être refaits dans ce secteur-là. Donc, ralentissement, s'il y a quoi que ce soit d'autre. C'est le 418-971-1021.
Il est chef du Parti conservateur du Québec. Son nom, c'est Éric Duhaime. Salut, Éric.
Salut, Yannick.
Comment allez-vous, monsieur? Est-ce que vous êtes toujours à Victoriaville ce matin?
Non, c'est pas ça. Je m'en vais le mercredi soir. C'est mercredi que je fais la rencontre avec les militants pour commencer à s'organiser là, parce qu'il risque d'y avoir une élection partielle à Victoriaville plus tôt que tard.
Ouais. Comment ça se passe dans les rassemblements de ce type-là? Vous jasez de quoi exactement? Surtout que c'est pour la scène fédérale, toi, t'es plus un chef provincial?
Oui, mais c'est parce que le député provincial se présente à la scène fédérale, donc il va y avoir une élection provinciale aussi.
Ouais.
C'est ça qui est l'enjeu pour nous. L'idée, c'est de commencer à dire ben, comment on va s'organiser, comment on va rallier nos membres. Il faut déjà commencer à penser à ça, là, comment... s'assurer que qui veut faire quoi lors de l'élection, commencer à structurer un comité électoral, parce qu'on pensait que l'élection aurait lieu juste dans 2 ans et demi, mais là, ça pourrait être dans quelques mois, donc il faut être prêt, il faut commencer à faire du financement, il faut commencer à renouveler nos cartes de membres, il faut commencer à dire qui est prêt à poser des pancartes, qui est prêt à faire telle fonction, qui est prêt à commencer à faire du porte-à-porte, donc il faut se rassembler, puis il faut se réunir, puis il faut s'organiser.
Éric Lefebvre a dit en fin de semaine que la raison pour laquelle il est parti de la coalition Avenir Québec, c'est parce qu'il voulait joindre les rangs du Parti conservateur du Canada. Il a expliqué que ce n'est pas un désaveu envers François Legault. Éric Lefebvre, demain matin, il vote pour qui au provincial? Il vote-tu pour Éric Duhaime ou il vote pour François Legault?
Ah ben ça, il va falloir lui demander. Là, c'est pas moi qui peux répondre à sa place, mais moi, ce que je comprends, c'est que c'est toujours une bonne nouvelle pour les conservateurs québécois sur de voir des députés de la CAQ démissionner puis quitter leurs fonctions. Je pense que ça envoie un bon signal dans le sens où les gens, si c'était si beau que ça à la CAQ, il n'y a pas personne qui voudrait partir, là, pour comprendre. Et je pense que c'est encore un désaveu, même c'est qu'on le veuille ou non, il y a une forme de désaveu là-dedans. Là. Tu peux pas t'en aller et dire que tout va bien. Là. Puis c'est pas le seul en passant. Là. Vous voyez que plusieurs députés se posent des questions. Tout le monde se demande où ça s'en va. Et ça va permettre aussi d'avoir une élection partielle, justement, pour pouvoir voir est-ce que la CAQ est aussi populaire qu'elle le prétend. C'est un comté, il faut le rappeler. Là. C'était un des 6 ou 7 comtés qui restait encore à la CAQ. Là, quand il disait que la CAQ pouvait descendre à aussi bas que 6 ou 7 comtés, Arthabasca, là, c'est la circonscription qui comprend Victoriaville. C'était une des 6-7 dernières qui restait à la CAQ. Fait qu'on va pouvoir aller mesurer si c'est bien le cas.
Éric Duhaime, tu es un peu comme moi au niveau de l'économie. Là. Tu fais partie du mauvais club, la droite économique, un plus petit gouvernement.
Oui.
On veut laisser plus d'argent dans les poches des contribuables puis peut-être un peu moins d'argent au gouvernement. Tu te sens pas, t'es pas mal à l'aise de voir un député provincial continuer à recevoir son chèque de l'Assemblée nationale en se préparant pour la scène fédérale?
Ben écoutez, c'est sûr que présentement, là, d'un point de vue fiscal, tous les conservateurs fiscaux, là, toutes les décisions qui viennent de Québec ces jours-ci sont très, très difficiles à avaler. Là. À commencer par un déficit de 11 milliards de dollars, à commencer par la une du Journal de Québec de ce matin, où on apprend qu'on paye des bureaux pour Investissement Québec.
Ouais. Ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais Éric Lefebvre, lui, il va avoir sa paye de l'Assemblée nationale en bâtissant son comté fédéral, là. Son équipe.
C'est sûr que ça, il va falloir à un moment donné qu'on revisite ça. Là. Il y a déjà eu des choses qui ont été faites. Il ne faut pas dire que tout est comme c'était avant. Là. Déjà, il n'y a plus de prime. Parce qu'avant ça, tu sais que quand il démissionnait, en plus, il y avait une prime.
Oui.
Ça n'existe plus. Mais effectivement, là, il y a une zone grise là, sur. Okay. C'est vrai aussi au niveau municipal. Là.
Mais Éric Lefebvre, est-ce qu'il doit démissionner dans les prochaines semaines?
Bien, ça y appartient. Là, je veux dire, présentement, la loi ne l'oblige pas. C'est à lui à décider là, ce qu'il veut, où il veut consacrer ses énergies puis comment il veut diviser son temps. Mais présentement, la loi, la façon dont elle est faite, les députés ont droit de rester. comme les maires ont droit de rester s'ils se présentent sur la scène provinciale ou fédérale.
Okay. Puis si toi, tu étais Éric Lefebvre, tu ferais quoi?
Ben moi, écoute, pendant 2 ans, j'ai pas eu de salaire, là, puis j'ai fait de campagne parce que je voulais faire campagne. Puis, fait que j'ai pas. C'est ça, c'est un choix personnel. Pour moi, tu as eu le moyen de le faire. Je comprends que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais moi, c'est ce que c'est la façon dont je l'ai fait. Je trouvais que si je voulais me consacrer à la politique, préparer mes élections, c'était à moi à payer. Fait que pendant 2 ans, j'ai travaillé bénévolement.
Oui. Ben, je veux dire, tu travaillais quand même au travail, mais tu travaillais pour ton propre compte, là.
Ben, non, j'avais aucun revenu.
Ah, je pensais que tu faisais des placements et tout ça, tu bâtissais des trucs.
Ah, ben non, mais ça, je veux dire, tout le monde place ton
argent. T'es un bâtisseur!
Non, mais tu comprends ce que je veux dire, là, c'était pas, j'avais pas de revenu fixe.
Ouais, c'est ça. Mais c'est juste que dans le cas d'Éric Lefebvre, j'ai l'impression que, tu sais, il y a comme une certaine injustice, puis tout le monde du côté conservateur semble un peu mal à l'aise avec sa décision de rester à l'Assemblée nationale comme député indépendant tout en recevant son chèque. On dirait qu'il n'y a pas de conservateur qui disait que ça n'a pas de crise de bon sens, alors que techniquement, vous êtes de droite économique, vous devriez lui demander, bien pas toi personnellement, mais Pierre Poilievre devrait lui demander, tu sais, nous, on te demande de ne pas prendre l'argent des Québécois pendant le temps que tu fais ta campagne électorale. Il est en pré-campagne électorale actuellement.
Oui. Mais je ne sais pas si la question lui a été posée, parce qu'hier, il y avait un rassemblement à Victoriaville, puis Pierre Poilievre était présent, mais je ne sais pas trop comment ça s'est passé de ce côté-là, là, mais je peux pas répondre à lui place, je n'étais pas là.
Investissement Québec, j'ai vu que tu avais tweeté un peu sur Investissement Québec. Je voudrais commencer avec l'ex-PDG d'Investissement Québec qui va être payé jusqu'en 2026. Il va recevoir jusqu'à 700 000 au cours des 2 prochaines années. Puis on nous dit que c'est en vertu d'un régime d'intéressement à long terme. C'est la première fois que j'entends parler de ce régime-là. Là. Et lui, ça fait un bail qu'il a démissionné. Là. Il a démissionné en janvier. Là.
Ça, c'est ça. Fait que les contribuables continuent à payer pendant des années. On va continuer à payer un bail aussi jusqu'en 2034, je pense. C'est quelque chose comme ça qu'on paye, qui est vide depuis 4 ans. C'est des décisions qui sont excessivement difficiles à comprendre et à justifier. Et tout le monde est en train de remplir son rapport d'impôt présentement, là, puis on voit tout qu'on paye de plus en plus cher, puis que le gouvernement est de plus en plus gourmand avec nos taxes puis nos impôts. Et d'un autre côté, on voit le gouvernement qui dépense comme ça n'a pas de sens, maudit bon sens. Puis c'était dans n'importe quelle autre démocratie normale, bien, on dirait à ces gens-là, premièrement, il y a des têtes qui rouleraient. Qui va être imputable de ces mauvaises décisions-là, des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars qui sont dilapidés de l'argent public en pure perte? Qui va perdre son job pour incompétence? Y a-t-il des fonctionnaires qui ont signé ces baux-là, qui vont perdre leur job? Le ministre, est-ce qu'il est imputable? Est-ce qu'il va démissionner, M. Pierre Fitzgibbon, parce qu'à cause de l'incompétence de son ministère? Ben non. Au Québec, là, puis le premier ministre va-t-il s'excuser puis dire que ça ne se reproduira plus jamais? Ben non. Puis Pierre Fitzgibbon, il va nous regarder de haut, comme il nous regarde tout le temps de haut, puis il va dire 400 000 piastres, de toute façon, pour moi, c'est des peanuts. Puis il va sortir de barre, puis il va dire aux médias, regardez, écœurez-moi pas avec vos questions, là, j'en ai rien à foutre. Puis les journalistes ont peur de lui, c'est un super ministre, c'est lui qui distribue les subventions à coups de milliards au Québec.
Mais ça se passait pas, ça se passe juste à la CAQ présentement, parce que la CAQ est au pouvoir. Pierre Fitzgibbon est un bon exemple, effectivement, de super ministre par ce qu'il a comme carte de visite, comme curriculum vitae. Mais on a vu ça aussi à travers les dernières années au sein de tous les gouvernements. Pourquoi il y a ce genre de personnage-là, politique, qui est un peu épargné de ce que les autres ne le sont pas? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que quand tu as un passé d'homme d'affaires, une précision dans ton rôle politique qui a été fait dans le passé, tu es un peu comme un super politicien, puis justement, ça va te couler sur le dos comme le dos d'un canard? Ou
C'est souvent les politiciens. En fait, la force d'un ministre, ça se mesure souvent par la proximité qu'il entretient avec le premier ministre. Puis Pierre Fitzgibbon a des liens très privilégiés avec François Legault. Puis c'est pour ça qu'il a été blâmé, par exemple, 3 fois par la commissaire à l'éthique. Il a même été obligé, rappelez-vous, de démissionner comme ministre à cause de ses conflits d'intérêts, mais il a été réintégré dans ses fonctions 2-3 mois plus tard avec plus de responsabilités.
Mais si c'était impossible à faire, on ne le ferait pas. Donc, il est où le bas blesse? Du côté de tout ce qui entoure la politique ou vraiment la CAQ?
Je vais donner un autre exemple. Ben Voda, qui était ministre du patrimoine à Ottawa, elle a démissionné parce qu'elle avait payé 14$.
Je
ne me souviens plus pour un jus d'orange, OK? Mais elle n'avait pas de lien privilégié avec le premier ministre, je te confirme ça. Là. C'est ça sûr et certain. Mais il y a des ministres qui ont des liens très, très proches qui font que le premier ministre va toujours passer l'éponge en arrière. Puis Pierre Fitzgibbon fait partie des deux, trois ministres comme ça au sein du gouvernement de la CAQ à l'heure actuelle.
Et comment on peut se prémunir de ça? Parce que peu importe le parti, ça peut arriver. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le DG ou autre qui peut être fait? Si jamais, là, il y a affaire.
On pensait que, tu sais, des rapports de la commissaire à l'éthique, des plans de la commissaire à l'éthique, je pensais, moi, que ça, c'était le summum, là, mais ça a l'air que c'est pas encore assez. Je pense que c'est la seule chose, c'est l'opinion publique. Le jour où un ministre devient toxique pour un gouvernement, là, peu importe les liens d'amitié qu'il entretient personnellement avec le premier ministre, ils n'ont pas le choix de le laisser partir. Mais Pierre Fitzgibbon, de toute évidence, n'est pas encore rendu assez toxique pour que la CAQ considère s'en débarrasser. Puis l'autre exemple que je vous donnerais, c'est l'exemple d'Éric Kerr. Puis dans la région de Québec, là, je veux dire, Éric Kerr, tout le monde trouve qu'il n'y a plus de crédibilité. Le gars, il nous a menti à pleine face. Il avait promis qu'il allait démissionner s'il n'y avait pas de troisième lien. Et après ça, il a défendu la décision du recul du troisième lien. Sa clique, ça a été un désastre dans son ministère. Puis le gars est encore en fonction au moment où on se parle. C'est toujours décevant, mais malheureusement, c'est pas surprenant. Tu as raison sur une chose, Pascal. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais c'est l'opinion publique, ultimement, est responsable de ça, dans le sens où c'est elle qui va décider si ou non Éric Kerr ou Pierre Fitzgibbon vont être élus.
Éric Duhaime, il y a un auditeur qui me fait penser à ça. La semaine passée, avec Pascal, on a parlé du dossier de François Legault. Ça va pas nécessairement bien pour les sondages pour la Coalition Avenir Québec. Là, les rats commencent à quitter le bateau, des gens qui veulent se trouver d'autres jobs.
Oui.
Est-ce qu'il devrait annoncer, en tant que stratège politique, parce que tu l'as été longtemps, là, est-ce qu'il devrait annoncer qu'il quitte puis qu'on puisse y aller avec un chef ou une chef qui pourrait être là pendant des années, plutôt que quelqu'un qui, on sent qu'il est en fin de parcours là, au niveau politique?
C'est la grande question à Québec présentement. Combien de temps François Legault va encore rester? Est-ce qu'il va se représenter aux prochaines élections? Évidemment, il ne dit pas non. T'sais, vous avez vu la semaine passée, il s'est fait poser la question puis il a dit qu'il allait être candidat à nouveau en 2026. Ce qu'il va pouvoir observer dans les prochaines semaines, là, c'est l'entourage du premier ministre. Est-ce que son entourage va rester là ou est-ce qu'elle va quitter? Parce qu'habituellement, là, c'est comme ça que ça commence. Là. Quand tu sais que tu t'en vas, là, les gars et les filles autour de toi commencent à se promener avec leur CV puis commencent à chercher d'autres places où aller.
Mais là, encore plus, parce que c'est une coalition, non? C'est pas le côté négatif d'une coalition, justement, des gens qui se regroupent avec diverses opinions, mais qui ont envie de faire avancer quelque chose ensemble. C'est comme le point fort, c'est aux élections quand tout le monde est allié puis pour aller chercher des votes, puis le point négatif, on le voit en ce moment, non?
Oui, mais tu as raison. La faiblesse d'une coalition comme la CAQ, c'est que tu n'as pas de cohésion idéologique. C'est le corollaire. Là. C'est une coalition, OK, c'est vrai, tu rapatries du monde de toutes les couleurs, sauf que idéologiquement, tu n'as aucune cohérence. Et c'est ce qui se passe présentement. Puis aussi, la loyauté est moins grande, parce que, veux pas, ils viennent de toutes sortes de familles politiques. Là, vous l'avez vu, il y en a un qui est parti au Parti conservateur, mais il y en a qui pourrait partir au Parti libéral, il pourrait partir au Bloc, encore plus. Si vous regardez l'entourage du premier ministre, c'est à peu près tous des péquistes. Donc, la faiblesse de la CAQ, c'est ça. C'est ça qui fait aussi que ça a monté très, très haut, parce que c'était une coalition. En termes de sondage, on l'a vu aux élections, là, ils ont raflé quand même 90 circonscriptions. Mais c'est ce qui fait aussi que leur noyau dur, le pourcentage de Québécois que c'est sûr et certain, puis qui sont vraiment pro-CAQ au bout, puis même qui sont membres de la CAQ, est plus petit que celui du Parti conservateur du Québec, même si on n'a pas d'élu. C'est quand même ça, c'est particulier. Hein? Ça vous démontre comment c'est un parti qu'il y a... C'est comme une pêche qui n'a pas de noyau. C'est juste pour une image, tandis que nous autres, là, vos PCQ, on est le contraire. On est une pêche avec un gros noyau et avec moins de chair autour. Donc, c'est un peu la faiblesse de la CAQ actuellement. C'est pour ça que le départ de François Legault, il faut faire attention parce que son départ, ça pourrait signifier quoi? Ça pourrait signifier une autre vision à l'intérieur du parti parce que tous ces groupes-là, la seule chose qui les unit, c'est le leadership de François Legault. À partir du moment où il s'en va, tu commences avec une poule pas de tête, là, ça va aller partir de quel bord, on ne le sait pas. Si Bernard Drinville devient chef, est-ce que c'est un parti qui va s'allier avec le PQ, qui va devenir ouvertement souverainiste? C'est Geneviève Guilbeault, est-ce qu'ils vont s'allier officiellement avec les libéraux, qui vont devenir ouvertement ultra-fédéralistes? On ne le sait pas, mais tout ça est possible. Là. C'est pour ça qu'il y a un gros risque là, si François Legault quitte maintenant.
Autre dossier, je ne sais pas si tu l'as vu dans la presse, le fameux palmarès des urgences.
Oui.
La durée moyenne d'un séjour aux urgences au Québec, en 2018-2019, on était à 14 heures 12 minutes. 2023-2024, 17 heures 26 minutes. Ça continue d'augmenter et ça, si je ne me trompe pas, c'est le temps d'attente sur civière. Donc, ça n'inclut pas le temps d'attente dans la salle d'urgence avant. Fait que si tu as attendu 8 heures, tu dois ajouter le 8 heures à ce 17 heures-là.
Ça, c'est le bilan de la CAQ en matière de santé. Le panorama qui est publié aujourd'hui dans la presse, allez le voir ça, là. 3 heures de plus d'attente depuis que la CAQ est là. Ça, c'est les virages, là, puis c'est les politiques de M. Dubé puis de M. Legault qui nous promettent mer et monde, ils nous promettent des résultats incroyables, mais en fait, c'est le contraire qui se produit. On continue à attendre de plus en plus. Puis, ce qui est grave, là, tu sais, là, nous autres, ce qu'on dit, c'est que ça prend de la concurrence publique-privée. C'est pas, le gouvernement ne peut pas, à lui seul, tout régler ce problème-là. Oubliez ça, c'est impossible. La seule pression qu'il va avoir, qui va être positive pour le bénéfice des soins aux patients, c'est qu'il y a de la concurrence, comme dans tous les pays européens qui fonctionnent le mieux à travers le monde, là, que ce soit la Suède, l'Allemagne, les Pays-Bas, même la France, ils ont des systèmes parallèles public-privé. Puis ce qui est encore plus décevant, c'est que la CAQ en élection, vous vous en souvenez peut-être, nous avait promis 2 hôpitaux privés, dont un à Québec. Et là, malheureusement, l'éléphant a accouché d'une souris la semaine passée. Là, on a appris que finalement, ça ne sera pas un hôpital qu'on va avoir. Il n'y aura pas d'urgence, pas de lit. Ça va être une clinique gériatrique. On est loin, loin, loin de ce que la CAQ avait promis. Le privé en santé, c'était bon pour essayer d'aller chercher des électeurs un peu plus conservateurs pour être sûr qu'ils ne votent pas pour Duhem et qu'ils votent pour Legault. Mais en fait, c'était juste, en ça aussi, nous on s'est fait rouler dans la farine là-dessus aussi, comme avec le troisième lien. C'était juste le temps des élections. Puis après les élections, ben ils se souviennent plus de leurs engagements.
Mais tu connais les rouages de la politique. Tu connais les rouages de la politique, Éric. Ça fait longtemps que tu es là-dedans, au-delà de la chronique puis de ton rôle dans les médias que tu as fait dans les dernières années. Là. Dis-nous, parce qu'on avait cette discussion-là en début d'émission tantôt, il n'y a pas une solution, il n'y a pas quelque chose de solutionnaire dans tout ça. Le fait qu'au public, tu n'es pas capable d'aller opérer plus qu'une journée par semaine pour des chirurgiens orthopédiques, c'est une chose. Mais si jamais on a une entente avec le privé, puis on se dit, écoutez, là, pour une partie des prochains mois, on va offrir cette possibilité-là, mais on ne veut pas que les médecins s'y attachent, parce que ça se peut que les salles soient plus belles, ça se peut qu'il y ait un meilleur roulement, ça se peut qu'il y ait des choses qui attachent ces chirurgiens-là au privé, mais on va faire en sorte que ce ne soit pas le cas par je ne sais pas quelle solution, mais on va s'asseoir ensemble et on va trouver. Mais on va s'assurer de travailler pour notre vrai client, notre vraie clientèle, qui est le citoyen, le payeur de taxes. Puis ceux qui sont sur le papier où il y a 40 000 personnes en attente et que ça ne fait que s'accumuler. Et donc, qu'on s'auto-détruit dans notre propre ministère en ayant des listes qui s'allongent comme ça, des patients qui vont avoir besoin de plus de soins à plus long terme, des gens qui ne seront pas capables d'aller travailler, qui ont besoin d'être sur peut-être le chômage et autres parce qu'ils ne sont pas capables justement d'aller contribuer à la société par le besoin d'opération. On n'est pas capable en ce moment de s'asseoir et dire on se crée plus de dommages en ayant une crainte que des médecins restent au privé. Est-ce qu'on ne peut pas solutionner?
C'est une très bonne question que tu poses, puis je vais te répondre avec quelque chose qui est apparu dans les derniers jours. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer à Radio-Canada, ça m'a surpris, là. Mais il expliquait comment le privé a contribué au niveau des yeux, là. C'était au niveau comment les cliniques privées, avec une entente avec le public, ont réussi justement à réduire l'attente et comment ça a réussi, ça a permis d'avoir beaucoup plus de soins en très peu de temps. Et c'est exactement ce qu'on propose encore. Puis la barrière là est idéologique. On est dans un pays où les gens pensent que le monopole public offre des meilleurs services. Tant et aussi longtemps qu'on va penser ça, bien, le système va continuer à tirer de la patte, puis on va continuer à attendre de plus en plus, puis ça va continuer à coûter de plus en plus cher. Je veux dire, quand tu n'as pas de concurrence, si demain matin, le boulevard, vous êtes bien bon, là, mais si on ferme toutes les autres stations de radio au Québec, là, puis vous êtes la seule station qui a un monopole, puis on vous donne des millions de plus comme budget, bien, votre produit va être de moins bonne qualité. Je veux dire, c'est la nature humaine qui est ainsi faite, là. Ça prend de la concurrence. La concurrence, elle est saine. Et malheureusement, en matière de santé, pour certaines personnes, idéologiquement, c'est un tabou. Puis tant et aussi longtemps qu'on va entretenir ce tabou-là, bien, il va falloir se contenter de services de santé médiocres.
Éric, tu t'en vas à Victoriaville quand? C'est mercredi?
Mercredi, je m'en vais à Victo rencontrer nos militants.
Si tu croises Éric Lefebvre, tu dois lui dire de ma part, si c'est un vrai conservateur qui est de droite économique, il doit démissionner de l'Assemblée nationale, cesser de prendre notre argent au provincial, puis s'organiser comme il peut jusqu'aux prochaines élections fédérales.
Je vais faire mieux que ça. Je vais suggérer de donner une entrevue et d'aller voir en studio.
Ouais, d'après moi, ça ne marchera pas, il voudra pas. Hey, Éric,
je vais m'essayer.
C'est toujours un plaisir.
Merci Yannick, bonne journée, bye.
Salut, bye bye. Éric Duhem, chef du Parti conservateur. On a fait une coupe de sujets, mais le sujet qui me tenait à cœur, c'était vraiment Éric Lefebvre, qui a quitté la coalition Avenir Québec pour siéger en tant qu'indépendant jusqu'aux prochaines élections fédérales. Donc, nécessairement, il va avoir une partielle. Fait que, tu sais, pars de suite, là.
sketching déjà pour les contribuables?
Ben, c'est un 6 à 700 000 $ supplémentaires que va occasionner la partielle. Donc, il ne terminera pas son mandat. Puis là, ben, il continue d'être payé par l'Assemblée nationale alors qu'il se prépare sur la scène fédérale. T'sais, il ne devrait pas, techniquement, si c'est un conservateur de droite économique, ne devrait pas faire ça. Puis j'espère juste que ses collègues vont lui mentionner. Là. Mm-hmm. Mais je comprends que ce n'est pas tout le monde qui est indépendant de fortune, là. Mais il fera d'autres choses comme tout le monde.
Ben, c'est vrai, oui.
Mais assurément, c'est questionnable.
Ah, c'est questionnable, certain. Puis, juste revenir aussi sur un dossier qu'on a passé très vite, c'est l'ex-PDG d'Investissement Québec. Pascal, des jobs dans le privé, il y a des jobs qui sont payants, mais dans le public, quand t'es ami, là, quand t'es un employé ami du gouvernement, je peux te dire que ça peut être extrêmement payant. Et Guy Leblanc, qui a quitté son poste de PDG d'Investissement Québec à la fin de janvier, va recevoir encore pendant 2 ans jusqu'à 700 000 $. Comment ça va te prendre, toi, pour ramasser 700 000 dans ton fonds de pension, Tom?
Longtemps.
Ça va prendre longtemps. Mais je comprends que c'est de la haute fonction publique puis que ces gens-là ont des études, mais ça n'a juste pas de bon sens. Après ça, on dit, il me semble que ça coûte cher vivre au Québec. Il me semble qu'on est imposé. En fait, on est les citoyens les plus imposants en Amérique du Nord. Mais quand on trouve des patentes comme en vertu d'un régime d'intéressement à long terme qu'on appelle le RILT, parlez de ça à votre comptable.
D'intéressement, moi, ça me fait beaucoup rire.
Ouais. Parlez de ça à votre comptable. Hey, connais-tu ça, le RILT?
Le régime
Il y a bien beau être le meilleur des comptables. Il n'aura probablement jamais entendu parler de ça, le régime d'intéressement. Puis c'est 700 000 qu'il va recevoir en restant chez eux. Puis le gars, il est autour de 50 ans. Là.
Mais regarde sa photo.
C'est pas quelqu'un en fin de vie. Là.
T'as-tu vu une autre nouvelle en lien avec Investissement Québec? Les bureaux.
Oui, quand on a parlé avec Éric tantôt.
Exactement.
On en a parlé, effectivement.
C'est complètement fou, ça, là.
Oui, c'est fou, mais c'est pas grave. On a tellement d'argent. On est bien.
On est riche.
Midi 50.
Mettons que j'avais une parenthèse à faire, Yannick, là.
Oui.
J'aimerais une ventilation du pourquoi on est capable de donner ces primes-là. On se base sur quoi?
À qui, ça?
Dans le 700 000.
Dans le cas du PDG? Ben voyons, mais c'est assez clair. C'est le régime d'intéressement.
Comment est-ce qu'on se conditionne à croire que ça vaut ça?
Durant son mandat, il a reçu des octrois annuels qui sont payés 3 ans plus tard. Mmh. Comme il est parti à la retraite, le régime prévoit que ces octrois sont pleinement acquis et donc payés selon l'atteinte des cibles sur le cycle de 3 ans. Il ne recevra aucune prime. Phew!
Mais cette atteinte-là...
Wow. Il recevra aucune autre prime.
Cette atteinte-là du sommet de la... de la dite prime ou de la pension. On ne va pas dire pension, là, mais on va prendre le régime d'intéressement de patente. Là.
Ouais, l'an dernier, Leblanc...
Comment est-ce que ça se fait qu'on soit capable de s'expliquer que ça monte aussi haut? C'est ça que je veux savoir.
L'an dernier, ben, c'est pas parce qu'ils nous font faire de l'argent, parce que ça fait une couple d'années qu'ils nous font perdre de l'argent.
Ça
ne
sera pas écrit dans l'article non plus, mais j'aimerais ça. Moi, y a-t-il une ventilation? Si c'est métier à haut risque...
Ben non, parce que
peu
s'il
de
perd
candidats
l'argent,
potentiels.
S'il perd de l'argent, il sera pas.
Si c'est.
On lui tape pas ses doigts.
Aucune
non.
condition. Si c'est.
Tu veux-tu le savoir, là?
Service rendu. Tu l'as.
L'an dernier et cette année, M. Leblanc a reçu 2 autres paiements de 350 000 $ au titre du RILT. Et si Investissement Québec atteint ses objectifs, il pourrait recevoir la même somme l'an prochain et en 2026, même s'il ne travaille pas.
Mais ils répondent pas à mes questions.
Pour un total d'1,4 million de $ en boni à long terme, incluant le versement reçu en 2022-2023. Au cours des 10 derniers mois, à la tête d'Investissement Québec, Guy Leblanc a touché une rémunération totale de près de 1 million de $. Il avait reçu 1 million de $ 60 000 en 2022-2023. Et la nouvelle PDG, scandale, gagne moins en bonus.
Ils ne répondent pas à mes questions.
La nouvelle PDG, Bichakau, a quant à elle eu droit à une rémunération d'1,1 million en 2023-2024, soit 4,3% de moins que l'année précédente. Le recul est surtout attribuable à la baisse de son boni annuel, qui s'est élevé à 111 000 $ contre 217 000 l'année précédente. Et il faut dire que Bichakau a enregistré un rendement de moins 4,8% et une perte nette de 224
avant qu'on ait une perte nette totale des auditeurs là, par rapport à leur ventilation écrite de qu'est-ce qu'ils ont eu, qu'est-ce
vous
qu'ils
travaillez
ont pas, eu.
Pas dans le bon domaine.
Moi, là,
vous avez pas les
si
bons
je te
amis.
Vends un biscuit dans mon café, là, j'ouvre un café demain,
oui.
Je te vends un biscuit aux pépites de chocolat. Je regarde de quantifier combien il coûte en ventilant, j'ai mis tant de farine, c'est au prorata, je calcule, puis je divise que j'en ai pris tant, ça me coûte X le nombre de farine que je mets dans ton petit biscuit. Donc, ton biscuit, mettons que je le vends 3 $, puis que je calcule mon profit dessus, bien, il vaut 3 $. Mais eux, ils nous disent jamais pourquoi ça vaut 700 000 $
ouais, ils vont dire
avoir
que,
occupé ce poste-là.
Ils vont dire que dans le privé, dangereux? Ils vont dire que dans le privé, c'est des salaires qui sont comparables.
Mais comparez-les-moi.
C'est ça qu'ils vont dire. Midi 53, courte pause, on vient.
Marceau le midi.